franceinter.fr.
Deux invités pour faire le point sur l'état de l'opinion à 33 jours du premier tour. Avant de vous écouter, auditeurs d'Inter, dites-nous ce que vous avez pensé du débat d'hier soir. Vous appelez le 01 45 24 7000. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur général de l'Institut Ipsos, récent prix du livre politique pour Plus rien à faire, plus rien à foutre chez Robert Laffont. Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Directeur du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Premier débat télévisé hier soir. Je ne vais pas prendre le ridicule de vous demander qui a gagné ou perdu. Mais d'abord Brice Teinturier, est-ce que l'émission d'hier soir a pu accrocher les Pravistes, ces 30% de Français qui disent ne plus s'intéresser à la politique?
Moi je le crois, je l'espère en tout cas, parce que un des chiffres qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est le taux de participation potentiel. Oui. On est à 66% de participation, ça voudrait dire un record d'abstention. Au-delà de l'abstention record de 2002, 28%, et ce qu'il nous manquait, il y a des causes profondes à cette abstention potentielle, dont les Pravistes, mais il y a également des causes conjoncturelles dues à la campagne, et ce qu'il nous manquait, c'était précisément un débat qui permette de parler non pas seulement des affaires, elles ont d'ailleurs été très peu évoquées, mais du contenu, du fond, et c'est, je crois, ce qu'attendent les Français. Donc, en ce sens, on peut espérer que ce débat commence à fabriquer l'entrée véritable dans la campagne et diminue ce taux d'abstention qui, à date, serait un taux record si l'on en restait à ces éléments aujourd'hui.
Martial Foucault, d'après vos études, ce niveau d'abstention pourrait atteindre un taux record 30, 35, 40%?
Oui, effectivement, c'est un chiffre très très important dans l'histoire des élections présidentielles sous la Ve. Mais au-delà du taux élevé, du niveau élevé d'abstention, c'est aussi l'indécision, l'incertitude qui aujourd'hui traverse beaucoup de Français. Même parmi les gens qui sont certains, qui nous disent certains d'aller voter, la moitié d'entre eux n'a pas encore décidé vers quel candidat porterait leur choix. Et je dirais que je suis pas certain qu'hier le débat permettra d'y voir beaucoup plus clair.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Mais parce que finalement, ce qu'on attend d'un débat, au-delà des propositions, d'un affrontement, d'une confrontation d'idées qui a pu être observée, et pas seulement sur le terrain domestique. On attend aussi de voir dans un moment de débat les effets, les traits d'image. Est-ce que les candidats et les candidates sont en mesure d'incarner la fonction présidentielle, le charisme, la compétence, la façon de se projeter sur les 5 ou 10 prochaines années? Et hier, on a vu des éléments qui permettent pas véritablement de réenchanter la vie politique, puisque l'un des éléments qui permet de comprendre pourquoi il y a un niveau aussi élevé d'abstention, c'est ce désenchantement avec la vie politique, une vraie fatigue démocratique.
Oui, mais une fatigue démocratique, d'accord. Mais la cristallisation, ce qu'on appelait la cristallisation auparavant, c'est-à-dire la formation de l'opinion à la bord d'une élection présidentielle, ça n'a pas eu lieu. Auparavant, on disait que ça avait lieu généralement au mois de février, quand on votait pour le mois d'avril. Ça vient de plus en plus tard, élection après élection, parce que le comportement du citoyen change, qu'il devient de plus en plus consommateur, zappeur, c'est ça Brice Teinturier?
Oui, mais pas seulement, parce qu'en 2002, la fameuse cristallisation du vote, eh bien, elle s'est opérée extrêmement tardivement aussi.
Il y a 15 ans déjà. Ouais.
Voilà. En revanche, elle a été beaucoup plus rapide en 2007 et également en 2012, je crois. Donc, suivant les éléments, les ingrédients de l'élection, suivant les candidats, suivant la conjoncture, vous avez cette fameuse cristallisation qui s'opère quelques semaines avant ou au tout dernier moment. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de cristallisation du vote. Vous avez des électorats qui sont encore très interrogatifs, très dubitatifs. Un taux donc de personnes donnant une indication de vote, mais également qu'elle peut changer d'avis, qui est très élevé. Alors moi, je crois que le débat, malgré tout, permettra peut-être d'affirmer un peu plus les tempéraments. On a vu des choses intéressantes dans ce débat. Et encore une fois, de mesurer davantage les clivages politiques sur les différents sujets, économiques et régaliens notamment.
Mais alors, comment expliquer, Martial Foucault, si cette cristallisation n'a pas eu lieu, que les niveaux d'intention de vote pour les 5 principaux candidats n'ont pratiquement pas bougé depuis un mois et demi, non? Depuis début février, on est à peu près dans ces niveaux-là. Il y a des tendances légèrement à la baisse, des tassements, etc. Mais l'ordre a très peu bougé. Brice Teinturier, non? Vous me démentez?
Quand même, il y a un écart entre Emmanuel Macron et François Fillon qui a eu tendance à s'accroître.
Oui.
On était, il y a 6 semaines, dans un avantage pour Emmanuel Macron de l'ordre de 3 points. On est passé aujourd'hui à un écart qui est beaucoup plus conséquent.
C'est vrai.
Donc, malgré tout, sans qu'il y ait de cristallisation, je trouve qu'il y a des choses qui commencent à se dessiner. Marine Le Pen, ça c'est vrai, a très peu évolué, mais elle maintient du coup une position qui, normalement, devrait la qualifier pour le second tour.
Marcel Foucault.
Non, il faut rajouter également l'effet des primaires, c'est-à-dire que le niveau a été finalement défini très tôt, à la fois par la primaire de la droite et la primaire de la gauche, et ce sont les deux références de cette campagne présidentielle pour les candidats, et il y a eu un mouvement, parce que on a quand même pu observer dans notre enquête un décrochage considérable pour François Fillon, passant de 30% d'intention de vote fin novembre à 17,5% aujourd'hui, et puis parallèlement une progression qui n'est pas d'ailleurs sur un mode, une porosité de l'électorat de François Fillon décrochant et l'augmentation d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus compliqué. L'arrivée de Benoît Hamon dans le jeu au mois de janvier a considérablement modifié la possibilité pour Emmanuel Macron d'être un candidat crédible au second tour. Et ce que l'on voit dès aujourd'hui, c'est que le décrochage de François Fillon, c'est un phénomène quand même important, ne se fait pas au bénéfice d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Macron profite à plein de ce début de campagne hésitant de Benoît Hamon. Alors, je disais tout à l'heure que les Français n'y verront plus clair après ce débat. Il n'empêche que Benoît Hamon, depuis une semaine, est sur une dynamique, mais une dynamique à 35 jours du premier tour, n'est-ce pas trop tard.
Où voyez-vous la dynamique, Marcel Foucault?
À la fois par la réussite de son meeting, mobilisation importante, et hier dans le débat, il a réussi à imposer un certain nombre d'idées, et ça pouvait être un des perdants de ce débat, parce que est-ce qu'il allait réussir comme représentant d'un des deux partis principaux de la Ve République à résister au phénomène Macron. On ne peut pas dire hier que Benoît Hamon et Emmanuel Macron se sont profondément divisés sur beaucoup de thèmes. Il y a eu beaucoup de points de ralliement.
Bon, alors j'avais dit au début de l'interview que je ne vous poserai pas la question, mais puisque vous venez sur ce terrain, alors est-ce que vous avez vu des perdants ou des gagnants, vous, Brice Tintoret?
C'est difficile de dire il y a un perdant majeur ou un gagnant majeur. Moi, j'ai trouvé que François Fillon, d'abord, était très en retrait dans la première partie et revenu ensuite dans le système, dans le débat, et qu'il a eu un avantage, c'est tout simplement d'être présent sans qu'on ne parle beaucoup des affaires, ce qui pour lui était essentiel. Donc de ce point de vue, ce n'est pas un renversement, mais le simple fait que le débat se soit déroulé comme ça est plutôt un avantage.
Ça permet de le remettre en scène.
Voilà. Emmanuel Macron était inégal. J'ai trouvé qu'il était par moments incisif face à Marine Le Pen, face à d'autres moments plus en difficulté, voire verbeux à certains instants.
Ce qu'a souligné Marine Le Pen, oui.
Alors, il a pu en même temps confronter et conforter l'idée d'un second tour face à Marine Le Pen et préparer des ralliements éventuellement de sympathisants LR en soulignant à quel point il pouvait être proche de François Fillon sur certains domaines. Donc de ce point de vue, lui qui était le favori, il n'a pas failli, mais il n'a pas été s'imposant absolument. Benoît Hamon, donc je pense que la stratégie de campagne est mauvaise, parce que je crois qu'il a tort de ménager Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est plutôt un adversaire pour lui, a été bon dans le débat. Il a été effectivement incisif. Alors, les intentions de vote que nous avons montrent une érosion continue, en réalité, de Benoît Hamon. Peut-être que depuis ce week-end, et avec ce débat, il y aura une stabilisation et une éventuelle remontée. Et puis, Jean-Luc Mélenchon était fidèle à lui-même, lyrique, présent, mais il ne me semble pas non plus qu'il ait imposé quelque chose de fondamentalement nouveau. Et Marine Le Pen, ne serait-ce que parce qu'elle était présente à ce débat, oui, a marqué des points.
Ce qui est une première dans un débat présidentiel, on n'a pas assez
souligné. Ça la normalise, ça la désextrémise. Donc rien que pour ça, elle a probablement marqué des points, même si sur les enjeux économiques, on voit qu'il y a toujours des difficultés de crédibilité quand elle essaye de dérouler ses propositions.
On revient avec vous évidemment sur d'autres aspects de ce débat et les questions, les appels, les points de vue des auditeurs d'Inter. Dans quelques minutes avec vous, Brice Tinturier, Martial Foucault. Il est 8h31.